Alors, il y a deux petites questions, deux grandes questions. Si l'on ne peut pas parler d'intuition de l'être, est-ce bien pour la raison suivante? L'intuition saisit un rapport, une relation entre des déterminations formelles de la réalité. Dire alors que l'on a une intuition de l'être serait saisir l'être dans une relation à une forme, et donc comme étant relatif à cette forme. Ou bien ce serait saisir l'être comme une forme commune aux deux termes de la relation. Mais dans les deux cas, l'être n'apparaît plus alors comme un absolu. Oui, c'est tout à fait ça. Si l'intuition, il faut réfléchir à la différence entre l'intuition et l'expérience. L'intuition est le jugement d'existence. Le jugement d'existence nous met en présence de ce qui est en acte. L'intuition, au contraire, nous fait saisir un rapport, une relation. Et donc, ne nous met pas en présence de quelque chose que nous saisissons comme un absolu. Comme un absolu, comme quelque chose qui s'impose à nous. Parce que dans le jugement d'existence, vous comprenez bien, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Ceci est. Du fait même qu'il est, il est l'autre qui transcende et qui s'impose à ma propre intelligence. Tandis qu'au contraire, dans toute intuition, c'est toujours une relation, un rapport. C'est la différence qui existe. Alors là, évidemment, il faut réfléchir sur ce que c'est que l'intuition. C'est très difficile de saisir ce que c'est que l'intuition. Je ne veux pas trop me développer là-dessus. Regardez un des endroits qui est très intéressant, c'est ce que Poincaré dit à propos des mathématiques. Quand il parle de l'intuition mathématique, c'est dans la méthode et science de son livre. C'est un livre très beau, du reste, qui reste toujours actuel, parce que ça n'a pas changé beaucoup l'intuition mathématique. Je crois qu'elle reste toujours la même. Mais les mathématiciens sont des gens d'intuition. Les grands matheux. Je sais bien qu'il y a deux écoles, comme partout. Alors, il y a les logiciens et les matheux. Il faut regarder dans... C'est intéressant, parce que ça montre toujours que de fait, il y a toujours deux pôles de l'intelligence. Alors, il y a les logiciens, matheux, et puis il y a les intuitifs. Alors, il faut regarder dans Meyerson, à propos des chemins au point de vue de la science, combien il y a les attaques violentes contre la logique mathématique du début. C'est très très curieux. Tous les mathématiciens intuitifs ne peuvent pas supporter ça. Donc, il faut savoir ce que c'est que l'intuition. C'est un phénomène très particulier. Notre intelligence est intuitive, je crois, dans ce qu'elle a de meilleur. Elle est intuitive, mais dans ce qu'elle a de meilleur, pas dans ce qu'elle a de plus fondamental. Alors, il y a des intuitions poétiques, ça c'est évident, il y a des intuitions artistiques. L'artiste est un homme aussi intuitif. Il y a des intuitions affectives, c'est bien évident. Il y a des intuitions religieuses. Mais il n'y a pas d'intuition de l'être. Et je crois que l'intuition de l'être, nous pouvons la situer entre le jugement d'existence et l'interrogation. Ça, il faut bien situer cela, parce que ça permet de sauvegarder, c'est pas à cause de ça que je dis ça, mais ça permet de situer ou de sauvegarder ce que dit Maritain. Jugement d'existence, ceci est. Diversité et unité de ces jugements d'existence. Cette diversité, cette unité. Toute intuition porte sur la diversité de l'unité. Un rapport. Un rapport des divers ceci et de l'unité de est. Il y a un rapport entre est et ceci. Alors c'est la diversité des ceci et l'unité de est qui fait comprendre cette intuition, ce qu'on appelle intuition de l'être. Faussement. Il faut dire intuition de l'unité dans la diversité, de l'exister dans les divers ceci. jugement d'existence, intuition diversité, et puis admiration. L'intuition conduit à l'admiration, normalement. C'est pour ça qu'un poète est toujours en état d'admiration, dans la mesure où il est intuitif. Puis l'interrogation. L'interrogation, nous y reviendrons, parce qu'il est très important. Le passage du jugement d'existence à l'interrogation. Qu'est-ce l'être ? L'être. Vous voyez, au point de vue philosophique, l'être apparaît, ce qu'on appelle l'être, en fond, c'est thématiser le « est ». Ici, vous êtes au présent. Au point de vue forme grammaticale. Ici, vous êtes devant l'infinitif. L'infinitif, c'est une forme particulière qui permet de faire que le verbe devienne comme un nom. C'est ça le propre de l'infinitif. Marcher. Être. Alors, le présent, c'est toujours la forme la plus actuelle du verbe. C'est la forme la plus actuelle du verbe. Le verbe est parfaitement verbe que dans le présent. Et le verbe passe à une forme qui n'est plus vraiment et uniquement le verbe dans la forme, dans le mode de l'infinitif. Où vous passez du présent à l'infinitif pour faire que ce qui est relatif apparaît comme absolu. C'est ça le nom. La forme substantielle du nom, c'est de faire de fait que ce qui est normalement relatif, le verbe grammaticalement est relatif au nom. Tandis que le nom n'est pas relatif au verbe. C'est pour ça que si facilement on dit que « est » ne signifie rien. Et que la seule signification vient du « ceci ». C'est vrai, c'est la seule signification absolue. « Est » est quelque chose qui s'ajoute. Alors ce quelque chose qui s'ajoute, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui s'ajoute ? C'est tout le problème de la signification propre. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je comprends, je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et en posant la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je pose la question à l'égard de tous les verbes, puisque le verbe être est le verbe le plus simple qui soit. Au point de vue philologique, en philologie latine et grecque, c'est net. Alors il y a la philologie de toutes les autres langues. Ça, c'est très intéressant de voir comment dans les diverses langues, le verbe être... par rapport aux différents verbes qui expriment l'action. Normalement, les verbes expriment l'action. Et le verbe être exprime l'acte. C'est assez beau, du reste. Hein. Vous passez de l'action à l'acte. Mais tous les verbes expriment l'action. Marcher, scier, manger, c'est l'action. Dormir, c'est encore l'action. C'est un repos par rapport à l'action. Donc c'est encore une action. Alors, tous les verbes expriment l'action. Et le verbe par excellence va exprimer l'acte. Ceci est. Ce n'est plus une action. Donc tous les verbes contiennent est. Et c'est pour ça que dans certaines langues, ce n'est pas explicité. Parce que c'est une forme, c'est ce que Meyer disait à propos du latin, et c'était très intéressant de voir cela, la différence entre le génie latin et le génie grec. En voyant que dans le génie grec, le verbe être, es, esti, avait été explicité beaucoup plus vite. Alors, j'ai dit ça, on m'a dit qu'aujourd'hui, on discutait ce point de vue-là, si c'était juste ou pas. Ça, les philologues, eux aussi, discutent entre eux, n'est-ce pas ? Parce que c'est toujours des choses plus ou moins fondées. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de regarder, au point de vue philologique, la manière dont le verbe être s'est formé. Est-ce qu'il est premier, est-ce qu'il est dernier ? Oui. C'est toujours une interrogation qui est intéressante à se poser. Parce que c'est évident que les verbes marcher et être sont différents, tous les deux sont verbes. Alors, je crois qu'on peut dire que le verbe être, au moins en grec, en latin, c'est une forme très purifiée, très dépouillée. Et dans toutes les langues indo-européennes, on retrouvera quelque chose comme ça. On retrouvera que, de fait, le verbe être est quelque chose de très purifié, présent dans tous les autres verbes. Mais les autres verbes ajoutent. Pierre est marchand. Pierre qui marche. Pierre est marchand. Alors, le participe lié au verbe être, qui montre bien, il est dans cet état particulier, il est marchand. Il est mangeant. Pierre, il est mangeant. Hein? Pour exprimer que Pierre mange. Alors, vous ne comprenez pas? Mais oui, il est mangeant. Alors, il est dans cet état particulier où il mange. Alors, ça montre bien que le verbe est présent dans toutes les autres. Mais elle exprime ce qu'il y a de fondamental dans l'action. Pour que l'action existe, pour que l'action soit, il faut qu'elle existe. Pour que l'action existe, il faut qu'elle ait. Ça, c'est de la philologie. C'est très intéressant au point de vue de la signification. Parce que c'est intéressant de voir cette interrogation fondamentale, la grande interrogation. L'interrogation qui est l'interrogation par excellence, qu'est-ce que c'est que l'être? Et la déesse qui vient vous dire, il est. Et tant que la déesse ne vous l'a pas dit, vous restez en suspens. Alors, donc, deuxième question. Si l'on dit que le langage n'est pas adéquat à la réalité, quant à la signification, oui, quand j'ai dit le langage n'est pas adéquat à la réalité, quant à la signification, signification du ceci, signification du est. Forcément, si je prends le point de vue du ceci, c'est la détermination quantitative. Je dis ça pour que vous compreniez vraiment ce que c'est la quantité. On insistera là-dessus. C'est la détermination. C'est la forme. La forme de détermination. Et quelque chose d'autre. Ça a une autre signification. C'est tout à fait autre chose, donc. Si l'on dit que le langage n'est pas adéquat à la réalité quant à la signification, n'est-ce pas parce qu'il est saisi relativement à cette réalité et que de plus, il n'en saisit à travers une induction baconienne que les déterminations formelles. Elle n'est pas baconienne, elle est tout simplement une induction. Une induction commune, universelle, ce qu'on appelle l'induction universelle. L'induction dont vous n'avez même pas conscience. Vous n'avez pas conscience quand vous dites chat, que vous êtes passé de toutes les expériences des petits chats et des gros chats que vous avez vus, et vous dites chat. Vous n'avez pas l'expérience du tout. Vous avez appris ça, tout simplement, quand vous lisez le dictionnaire. Alors, votre induction baconienne, on en a l'expérience, on sait ce que c'est. Tandis que là, c'est une induction que les scolastiques, que saint Thomas appelle l'induction universelle. On n'en a même pas conscience. On est passé de l'expérience du chat qui m'a griffé à chat. Et chaque fois que vous dites chat, vous pensez à la griffe. Si votre mémoire est bonne. Vous voyez, la première expérience du chat, c'est ce qui vous a griffé. Cet animal est doux, mais quand on l'attaque, il est méchant. Et on le sait très bien, il est d'une douceur, le chat. C'est du velours, hein. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Puis, coup de patte. C'est pas drôle du tout. Alors vous voyez bien comment, de fait, ce chat, il vous trompe, parce qu'il allait dehors d'une douceur. Puis tout d'un coup, alors vous voyez, hein, l'expérience du chat. Donc, il est saisi relativement à cette réalité, et que de plus, il en saisit à travers une induction que les déterminations formelles. L'énonciation de la proposition « ceci est » revient alors à une relation entre deux formes. Non, ça on le verra. Et la relation comme telle ne respecte pas la réalité propre de chaque terme dans son irréductibilité de l'un par rapport à l'autre. Il y a toujours une certaine assimilation. c'est moins précis, hein, cette seconde question, parce qu'elle est beau, en fait. Il y a différents, vous voyez, il y a l'analyse qu'on fait du ceci, et puis la manière dont nous sommes arrivés à cela, c'est deux choses différentes. Ce que je veux vous souligner ici, c'est la seule chose à comprendre, c'est que la signification du ceci est très nette. Le ceci, on peut le définir, et non, il échappe à la définition. Et c'est pour ça que si facilement, on dit que « et » n'ajoute rien. « Et » n'ajoute rien. Il est totalement relatif à ceci, donc dire « ceci est » ou dire « ceci », c'est la même chose. Eh bien, j'ai dit « non, c'est pas la même chose. » C'est les centalaires de Kant. Hein. Au point de vue de la signification. Qu'ils existent ou n'existent pas, ils ont la même signification. Que vous ayez 100 thalers dans votre poche ou que vous ne les ayez pas dans votre poche, les 100 thalers ont la même signification. Donc l'existence n'ajoute rien. C'est vieux ça. C'est Kant. Alors il faut voir comment Kant a dit ça. On essaiera de comprendre ça parce que c'est intéressant. Donc au niveau de la signification, ceci c'est net. Ça a une signification. Ceci c'est la vache. Ceci c'est le chat. Ceci c'est moi. Je suis un ceci, et vous l'êtes aussi. L'exister, c'est autre chose. La preuve, c'est qu'il est commun à tous ces ceci. Alors je comprends très bien comment, si je reste, alors c'est là une question de détermination, si je reste au niveau de la signification quantitative, la signification qu'on définit, c'est la signification quantitative. Quantitative veut dire ce qui est capable d'être défini. Donc si je reste au niveau d'une signification quantitative, c'est très vrai que « est » « est » échappe à cette signification. Donc d'une certaine manière, ça échappe, je ne peux rien en dire. Et alors, parce que je ne peux rien en dire, seul ce que je comprends existe. Donc on dit « ça n'ajoute rien ». Mais voyez qu'en faisant ça, il ne faut pas l'oublier, en faisant ça, vous n'êtes pas respectueux du langage. Alors, le langage est une réalité. Le philosophe doit être respectueux du langage. Le langage a existé avant la philosophie. Heureusement pour le langage. Le langage a existé avant la philosophie. Le langage est une donnée pour le philosophe. Il doit tout respecter dans le langage. Il n'a pas le droit de transformer le langage en fonction de sa philosophie. Parce qu'en transformant le langage, après, il transformera l'homme. Le philosophe est respectueux de la réalité qui existe avant lui. Il y a des traditions religieuses qui existent avant lui. Il y a le langage. Il y a des outils. Il y a des œuvres. Il y a la vie. Il doit comprendre ce que c'est. La philosophie est née après. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Elle est née après. Alors, comme elle est née après, elle doit être respectueuse de ce qui est avant. Et donc, le philosophe doit être respectueux de ce qui est avant. Si le philosophe dit la signification, c'est toujours ce qui est définissable. Il doit dire et je ne sais plus ce que ça veut dire. Je le respecte. Quand je dis « ceci est » ou « ceci tout court », dans le langage ordinaire, c'est différent. Alors vous pouvez dire « ah, la philosophie ne s'occupe pas du langage ordinaire ». Très bien. Alors à ce moment-là, vous dites que la philosophie ne respecte pas le donné. Et si elle ne respecte pas le donné, elle le fait au nom de quoi ? Puisque le donné est antérieur au philosophe. Alors, au nom d'un a priori, au nom d'une philosophie que l'homme a fabriquée, parce que la philosophie est quand même l'homme qui l'a faite, je suis bien obligé de reconnaître, c'est l'homme qui l'a faite. Et donc c'est l'homme qui est mesure de la réalité à ce moment-là. Par sa philosophie, il mesure la réalité. Il dit, je ne retiens dans la réalité que ce que je veux retenir, que ce que je mesure. Vous savez, cette fameuse définition de la méthode hein, s'appelle poisson, ce que mon filet prend. Tout ce que mon filet ne prend pas n'est pas poisson. C'est exactement ça. Ce que ma méthode philosophique prend, ah très bien, je le respecte. Mais ce que ma méthode philosophique ne prend pas, je ne prends pas. Donc ça c'est l'a priori. Vous mettez la méthode avant la réalité. Alors en mettant la méthode avant la réalité, vous êtes bien obligé de dire que la philosophie, que l'homme à ce moment-là devient mesure de toute chose par sa philosophie, par sa méthode. Et il ne rejoint plus le réel. Il ne saisit plus que la méthode. Or, il s'agit d'essayer de comprendre si je suis capable de connaître l'homme. C'est ça l'intérêt. Si je ne suis pas capable de connaître l'homme, la philosophie, je m'en... complètement. Je la laisse complètement tomber. Ça n'a aucun intérêt. Ma philosophie n'a qu'un seul intérêt, c'est de saisir ce qu'est l'homme. Parce que c'est ça qu'on doit saisir. Alors, est-ce que je suis capable d'atteindre le réel? Le langage est un signe. Et je vois quand je dis ceci est, j'exprime qu'au-delà du ceci, il y a est. Comment je le saisis, ça c'est autre chose. Hein. C'est pour ça que la seconde objection, la seconde question là est beaucoup plus complexe et elle mêle des choses qu'on dit diverses. Il faut d'abord saisir ça. Je me demanderai ensuite comment je peux l'atteindre. Ça c'est très vrai, le faux, au point de vue critique. Mais je constate qu'il y a de fait un jugement d'existence qui est dit dans mon langage. Et dans ce jugement d'existence, je mets une différence entre le ceci et le. Je vous affirme qu'il existe, hein, et c'est ce qu'on dira, tu vois, spontanément, quand quelqu'un dira mais non, c'est la même chose. Pas du tout. Sans à l'air qui existe, ou sans à l'air qui sont uniquement dans ma pensée, demandez au banquier si c'est la même chose. Il vous dira, non, moi je veux les compter. Alors là, je dis, ça compte. Tandis qu'autrement, non, c'est... Oui, vivez avec vos centenaires dans votre pensée, votre imagination. Vous êtes très riche, mais vous êtes riche uniquement dans votre pensée, dans votre imagination. Mais à racheter quelque chose avec vos centenaires qui sont dans votre pensée, vous n'achetez rien du tout. Il y a une différence entre ceci, tout court, et puis... Le ceci tout court implique une signification. Très bien, la vache. C'est une signification, le champ. Quand je dis « et », ah, ça veut dire que je peux l'expérimenter. Ceci est. Je l'expérimente, je le touche par mon intelligence. Et il est objet d'une expérience. Tandis qu'au contraire, ceci, le champ, je peux l'atteindre par ma connaissance, par mon appréhension. Il a une signification, c'est très vrai. Mais d'où vient cette signification? Elle vient de mes expériences multiples du champ. Et puis, petit à petit, j'ai dit le champ. Il y a toujours une expérience avant. Alors ça, c'est l'origine même du langage. Oui, alors là, je passe à l'origine. Comment je suis arrivé à la signification du ceci? Avant de saisir le ceci, il y a eu l'expérience. Il y a eu donc avant le jugement d'existence. Et je n'ai pas le droit de supprimer ce jugement d'existence, puisque tout repose sur lui. Toutes les significations reposent sur lui. C'est vrai qu'à première vue, et apparaît comme un au-delà, en dehors de la signification du ceci. Mais profondément, toutes les significations reposent sur elle. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est pas commode, hein, c'est très important ça. C'est toujours les choses élémentaires que le philosophe doit montrer. Et découvrir que toute la philosophie commence par le jugement d'existence. Alors, est-ce que le dépassement du ceci dans le jugement d'existence n'est pas le premier moment où intervient la nécessité d'une pensée analogique, dans la mesure où plusieurs jugements d'existence sont posés? Alors, premier moment, ça dépend comment on le compte. Hein. Je vous ai dit l'autre jour, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait toute une série d'expériences avant cette méta-expérience qui est le jugement d'existence. Donc, génétiquement, je ne commence pas ma métaphysique, je ne commence pas ma philosophie par la philosophie première, normalement. Je commence ma philosophie par philosophie du travail, philosophie de l'amitié, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, et déjà à ce moment-là, il y a le point de vue de l'analogie. L'analogie est déjà là présente. Donc, on ne peut pas dire que c'est le premier moment. Je peux dire que fondamentalement, toute l'analogie va pouvoir s'expliquer par la pensée métaphysique, par la pensée de la philosophie première. D'accord. Et donc, je peux dire que fondamentalement, l'analogie repose sur le jugement d'existence. Ça, entièrement d'accord. En effet, si on reste au niveau d'une analyse du langage, le est n'est qu'une copule, et donc l'analogie n'intervient pas. Peut-on alors dire que le langage en lui-même reste dans l'univocité et que seule la pensée est analogique? Je ne crois pas qu'on puisse le dire d'une façon absolue, puisque dans le langage, il y a quand même le verbe « être » qui n'est pas seulement copule. Quand je dis « ceci est », la copule, elle reste en suspens. Or, le jugement d'existence existe. On ne peut pas dire que dans le langage, le jugement d'existence n'existe pas. Donc, il y a déjà dans le langage une trace d'une connaissance analogique. Mais c'est très vrai que le langage, parce qu'il est en premier lieu le fruit d'une abstraction universelle, et qu'il est en premier lieu lié à la signification quantitative des réalités, que le langage a une tendance à l'univocité. Ça oui. Parce que l'esprit humain a beaucoup de peine de penser le point de vue analogique. Alors on se repose sur le langage. Et que s'il n'y avait que le langage, je ne sais pas si je pourrais découvrir l'analogie. Ça, c'est autre chose. Hein. Alors, peut-on dire que l'inadéquation du langage par rapport à la pensée se manifeste d'une manière particulière dans le toucher de l'intelligence par le jugement d'existence? Oui, puisque c'est la saisie de l'acte d'être. Dans l'analogie, quand il y a plusieurs jugements d'existence, oui. D'autre part, pour que l'intelligence saisisse le caractère analogique de l'être, ne faut-il pas une intuition? Alors, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. L'intuition est ici. Cette intuition, elle est nécessaire comme phase, c'est évident. Elle n'est pas nécessaire de façon absolue. Le jugement d'existence seul suffirait. C'est simplement parce que pour nous, on a besoin d'expliciter, de remuer un peu la sauce. N'est-ce pas ? Alors, on a besoin de ça. Et c'est important pour nous, parce que ça maintient une admiration. Mais, une fois que j'ai découvert le jugement d'existence, seul me suffit de me mettre en admiration. Quand je dis ceci est, parce que je suis en face de l'autre. Donc, je suis en face du premier moment de la transcendance. Et le premier moment de la transcendance suscite en moi une admiration. Donc, le seul jugement d'existence suffit. D'autre part, pour que l'intelligence saisisse le caractère analogique de l'être, ne faut-il pas une intuition? Pas nécessaire. En effet, lorsque l'intelligence saisit le « est » commun aux divers « ceci », n'est-ce pas le premier moment de l'intuition? Oui, d'accord. Et en même temps, le premier moment de l'analogie? Non. Le premier moment de l'analogie, il est donné dans « ceci est ». Tout simplement. Parce qu'autrement, vous diriez que l'analogie repose sur le rapport. Non pas de l'être, mais des formes. Alors ça, c'est un problème assez particulier, je ne veux pas trop le développer. Hein. Parce que ça, si celui qui a posé le problème, ça lui pose vraiment des problèmes, il n'a qu'à venir m'en parler, ou en parler au frère Benoît, pour essayer de comprendre ce point de vue de la naissance de la connaissance analogique. Hein. Bon, alors, je continue parce que c'est important de bien saisir ce petit itinéraire. Hein. Il faut que ce soit pour vous quelque chose de net. Je ne dis pas que vous soyez convaincu, hein. Vous serez convaincu lentement, mais qu'au moins vous compreniez ce petit itinéraire qui nous introduit dans la philosophie première. Jugement d'existence, donc, méta-expérience. Toutes les expériences impliquent le jugement d'existence. Si je prends expérience au sens fort, implique le jugement d'existence. Je peux donc, à partir de l'expérience, expliciter ce jugement d'existence. Ce jugement d'existence n'implique pas une nouvelle expérience, mais explicite. C'est pour ça que je dis méta. Une méta-expérience, jugement d'existence, ceci est. La diversité de ces jugements d'existence suscite en moi cette intuition. Cette intuition des rapports divers. Il y a quelque chose qui unifie la diversité des ceci. À cause de cette intuition, il y a une admiration en face de l'unité dans la diversité. Toute admiration, c'est toujours l'unité dans la diversité. Je crois que toute admiration, c'est toujours l'unité dans la diversité. C'est de voir comment l'unité est sauvegardée dans la diversité. Comment l'unité apparaît au-delà de la diversité. C'est ça qui suscite une admiration. Extraordinaire. C'est pas la diversité. La diversité ne suscite aucune admiration. Au contraire, la diversité vous met dans l'angoisse. Juste inverse. C'est du reste intéressant, parce que admiration et angoisse doivent toujours se voir un peu en parallèle. Il est angoissé quand justement vous ne voyez plus l'unité dans la diversité. Ne voyant plus l'unité dans la diversité, vous êtes angoissé. Alors vous êtes en face de l'anarchie la plus complète. Et l'anarchie vous angoisse. Ça, c'est sûr. L'anarchie au niveau politique, l'anarchie au point de vue économique, l'anarchie dans tous les domaines, ça vous met dans un état d'angoisse. Parce que vous ne voyez plus l'unité. Et l'unité, c'est quand même quelque chose qui, au-delà de la diversité, me permet de sauvegarder, de sauver cette diversité. Cette diversité est sauvée grâce à l'unité. Elle peut exister grâce à l'unité, autrement elle ne peut pas exister. La pure diversité n'existe pas. Impossible. Elle existe grâce à l'unité. Puisque le champ, la vache, moi, je n'existe, nous sommes un par notre existence. Et c'est grâce à notre existence. S'il n'y avait pas l'existence, on serait une diversité absolue. Mais grâce à l'existence, on a une certaine unité. Et on peut nous mettre en relation. Alors, c'est l'intuition qui fait ça. Et alors, ça suscite l'admiration. Alors, évidemment, là, il y a tout un passage très intéressant. C'est de voir comment les Grecs, d'une façon générale, la philosophie réaliste maintient l'admiration. La philosophie idéaliste engendre l'angoisse. Alors, il faut les mettre en parallèle, parce que c'est intéressant, ça. Pour les modèles, il faut l'angoisse pour entrer en philosophie première. Je dis bien pour entrer dans la philosophie première. Et c'est peut-être à cause de ça que les positivistes disent surtout pas d'angoisse, surtout pas de philosophie première. Je comprends. Assainir le terrain. Alors assainir le terrain, c'est supprimer l'angoisse. Donc, au nom de l'homme, je veux supprimer l'angoisse, je veux supprimer la philosophie première. Mais nous n'ont pas du tout. La philosophie première n'est pas de l'angoisse. La philosophie première n'est de l'admiration. Pourquoi ? Parce que quand je suis angoissé, je n'interroge plus. Je ne peux plus interroger quand je suis angoissé. Il y a quelque chose qui m'inhibe de trop. Donc je ne peux plus interroger. Or, il faut l'interrogation pour la naissance de la philosophie première. La philosophie première ne naît pas avec le jugement d'existence, elle naît avec l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors là, je suis obligé d'entrer dans une nouvelle recherche. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc c'est l'interrogation, et cette interrogation, elle naît à partir de l'admiration. Vous avez donc, si je compte, 5 moments successifs pour arriver à cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, quand j'arrive à cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Il y a là un moment très important. La philosophie contemporaine remet très en lumière le moment de l'interrogation. Et c'est en même temps quelque chose de très ancien. On peut dire que la philosophie de Socrate, c'est la philosophie de l'interrogation, avec l'ironie à la clé. Les gens qui interrogent beaucoup aiment l'ironie. C'est manière de s'en tirer très élégamment. Vous ironisez. Vous détruisez tout. À la place d'être dans l'angoisse, vous mettez les autres dans l'angoisse. C'est autre chose. Vous projetez sur les autres. C'est vrai, monsieur. Il n'y a rien qui nous met plus en angoisse que voir être entouré d'ironie. Qui cette bête crue d'alors n'est plus qu'à disparaître. L'interrogation de Socrate. L'interrogation d'Aristote. Quand Aristote dit qu'il est plus proche de Socrate que Platon, c'est à cause de l'interrogation. Parce que Platon progressivement supprime l'interrogation. Les premiers dialogues de Platon sont dans l'interrogation. C'est une manière de suivre l'évolution de Platon. C'est une manière très élégante de suivre l'évolution de Platon. C'est de voir comment les premiers dialogues de Platon impliquent des interrogations, un dialogue, et les derniers, plus du tout. Il y a un développement qui est tout à fait un monologue extraordinaire. Et Aristote revient à l'interrogation. L'interrogation, c'est reconnaître que la réalité que j'ai expérimentée est plus que ce que je connais. C'est pour ça que Merleau-Ponty dit « l'idéaliste n'interroge plus ». Et je crois que Merleau-Ponty dit ça à cause de Platon. Parce que Merleau-Ponty connaît bien Platon, hein, il connaissait très bien Platon. Et il dit ça à cause de Platon. Et c'est très vrai que plus l'idéaliste prend possession de notre esprit, moins nous interrogeons. L'idéaliste, comprenez bien ce que je veux dire, plus le primat de l'idée l'emporte, plus l'interrogation disparaît. Si, de fait, vous faites la philosophie uniquement avec le primat de l'idée, avec ce que les idées que vous possédez, vous dites au fond, la philosophie, c'est uniquement l'exaltation de l'idée, analyser mes idées, mettre en ordre mes idées, la métaphysique des idées. Alors à ce moment-là, l'interrogation disparaît. Pourquoi ? Parce que vous devez revenir à l'idée. Or, l'idée, vous l'avez en vous. Tandis qu'au contraire, si vous reconnaissez le primat de la réalité, le primat de la réalité expérimentée. L'expérience me met en face d'une réalité. Si vous reconnaissez donc l'importance de l'interrogation, ça ne peut se faire que parce que vous comprenez que la réalité contient en elle-même quelque chose qui vous échappe. Et que peut-être vous pouvez comprendre. Vous comprenez que la réalité est une source première à laquelle il faut tout le temps venir. L'interrogation me fait revenir à la réalité, au-delà de ce que j'ai saisi, au-delà de ce que j'ai pu comprendre déjà. J'ai déjà compris quelque chose, mais je demande de revenir. Alors vous comprenez ici l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est l'interrogation par excellence. Si le verbe être est le verbe par excellence, le verbe qui est métaverbe, hein, qui est le verbe dans le sens le plus foncier, le plus radical, alors si vraiment je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'être, cette interrogation, elle est l'interrogation par excellence. Et c'est ce que Heidegger a très bien compris. En disant la métaphysique, c'est l'interrogation sur l'être. Et ça c'est juste. C'est très très juste. C'est, j'entre en philosophie première par cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors ce qu'il faut maintenant saisir, et nous verrons ça la fois prochaine, c'est la signification de être dans l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors tout de suite je situe pour que vous puissiez réfléchir et méditer dessus. Méditation métaphysique. Est-ce que la signification de être dans l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être est la même que la signification de être. Voilà. C'est ça l'importance. Et ça, c'est une grosse question. Vous voyez, c'est là où on va essayer de comprendre la divergence de position au point de vue métaphysique. Est-ce que la signification de être dans l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être est la même que est. Ou est-ce que, de fait, il y a deux significations ?